On en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Guillaume Buffet.
Bonjour, bonsoir. Comment percevoir un territoire aussi vaste, aussi mystérieux, aussi attirant et en même temps aussi effrayant que le Sahara? Entre fantasmes et projections, entre empreintes du passé et questionnements géographiques, géopolitiques ou culturels, 10 jeunes artistes pluridisciplinaires, issus des différents pays traversés par le Sahara, se sont réunis le temps d'une résidence aux portes du désert pour apporter leurs réponses. Leurs œuvres sont elles aussi réunies aujourd'hui dans une exposition dans le cadre de la saison Africa 2020, Hôtel Sahara, est à découvrir au magasin Généraux à Pantin, près de Paris, jusqu'au 2 octobre, et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Anna Labouze.
Bonjour.
Bonjour Kémy Séni.
Bonjour.
Vous êtes les directeurs artistiques des magasins Généraux et les co-commissaires de cette exposition. Merci d'être avec nous. Une exposition qui a été imaginée donc lors d'une résidence de ces 10 jeunes artistes aux portes du désert. D'abord, Anna Labouze, comment est-ce qu'ils ont été choisis, ces artistes ?
Après de longues heures de recherche, on avait vraiment à cœur d'inviter des jeunes artistes avant tout, parce qu'on avait envie de parler à la nouvelle génération. Et donc on a choisi des artistes pluridisciplinaires, donc de la musique, de la danse, de la photographie, de la peinture, des vidéos, des jeunes artistes qui travaillent vraiment des médiums et une façon connectée à la culture visuelle et au code de la nouvelle génération, des adolescents.
Donc avec effectivement des outils d'expression extrêmement variés. Alors quelle était la philosophie de ce projet ? On va écouter les explications de la troisième commissaire de l'exposition, parce que vous êtes trois. Hein. Elle s'appelle Maya Awad, elle est philosophe, elle est doctorante en philosophie politique, elle travaille sur le désert et ses imaginaires, et elle était également présente à la résidence Hôtel Sahara. On lui a demandé comment elle avait aidé les artistes à travers leurs questionnements.
Pendant la résidence, on a eu l'occasion d'échanger collectivement pour essayer de mettre en avant en fait certaines problématiques qui me sont chères, je pense, sur la manière dont on peut essayer de penser en fait le Sahara, ses problématiques et ses enjeux complexes. Par contre, moi, avec ma formation, ce qui est très important, et c'est aussi au cœur du projet, non seulement de l'exposition, mais aussi du festival, c'est de toujours pouvoir identifier dans ces sources qui parlent, pourquoi, à quelle époque, quels sont les enjeux, notamment dans le contexte très spécifique qui est le Sahara, où on connaît une certaine forme d'asymétrie dans la production de savoir et de narration. C'est-à-dire que la majorité de ce qui se dit en termes de savoir provient de manière majoritaire de l'extérieur, c'est-à-dire soit des rives du Sahara, soit de l'Europe. Ce qui ne veut pas dire que les voix sahariennes n'ont pas des choses à dire. La question est évidemment l'accès. Qui peut parler aujourd'hui et qui peut se greffer au réseau de discussion mondialisé? Et donc mon travail, ça a été ce travail d'aller et retour, tant sur la problématisation des œuvres, sur les corpus de textes et sur la manière dont les artistes se situaient à l'intérieur de ces derniers et qu'est-ce qu'ils avaient envie de proposer comme voix alternative ou nouvelle ou poétique ou créative sur ces zones d'intérêt.
Maya Awad, à votre micro, Amélie Beaucourt. Bonjour Amélie.
Bonjour Jean-François. Bonjour Anna et bonjour Camille.
Bonjour Amélie.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre. Vous avez suivi, hein, il faut le rappeler pour VMDN, cette résidence artistique au Sahara qui s'est déroulée plus précisément à Mahmid El Rislan, dans la province marocaine de Zagora. On est donc à la lisière du Sahara. Vous nous avez fait vivre les premiers pas de cette aventure à travers une série de reportages pour VMDN. Mm-hmm. Et vous allez nous faire revivre quelques moments passés sur place.
Il faut situer Mahmid El Rislan. C'est à 5 heures de Ouarzazate, 10 heures de Marrakech. Vous vous souvenez sûrement de ces heures de voiture, tout droit vers le sud jusqu'à ce que la route disparaisse. Ensuite, on prend un 4x4 pour s'enfoncer dans le désert. Il faut avoir le cœur bien accroché parce que les dunes, ça secoue. On arrive ensuite au camp et on tombe sur ce gentil monsieur.
Marhaba bikoum fi Mahmid El Rislan. Bienvenue au Mahmid El Rislan.
Vous l'avez reconnu, je suppose ?
Bien sûr.
Rachid, est-ce que vous pourriez présenter Rachid et Aziz, qu'on va entendre un peu plus tard, qui ont eu une place toute particulière dans cette aventure ?
Alors, Rachid et Aziz, on a tendance à parler d'eux en tant que les 11e et 12e artistes de l'exposition. C'est-à-dire que c'est deux personnes vraiment extraordinaires qui nous ont accueillis dans le camp où on était, qui était un camp touristique, il faut le dire, c'est important. Comme disait Maya il y a quelques instants, qu'il faut dire d'où on parle. C'est-à-dire qu'on était dans un camp aux rives du Sahara. On n'a pas pu s'enfoncer davantage car on ne le pouvait tout simplement pas. Dans le cadre d'un projet institutionnel, on ne pouvait pas aller n'importe où. On a pu quand même, grâce à eux, découvrir quelques aspects de la culture nomade et sédentaire locale. Et ils ont une fibre artistique assez exceptionnelle. Les deux sont musiciens. Rachid organise aussi aussi un festival de musique nomade. Et du coup, ils nous ont beaucoup guidés aussi dans la culture locale. On a passé beaucoup de temps à jouer de la musique avec eux, à chanter. Rachid est aussi un excellent peintre et dessinateur. Donc tout ça pour dire qu'ils ont apporté énormément à la réflexion artistique des artistes et à la nôtre.
Ils nous apprenaient aussi beaucoup de choses sur cette culture nomade, même si maintenant ils se sont sédentarisés par la force des choses. On nous a dit dès le début, rien que le nom de la ville, Mamid El Rizlan, ça signifie l'endroit où il y a des gazelles, sauf que des gazelles, ça fait longtemps qu'il n'y en a plus là-bas, puisque les points d'eau à proximité se sont asséchés. Et donc, chaque moment de vie était prétexte à une petite histoire de la culture nomade, comme celle-ci que m'a raconté Aziz, et qui vient après l'un des bruits qui a rythmé les journées qu'on a vécues là-bas. Qu'est-ce que tu fais, Aziz ?
Je fais le thé.
Pourquoi tu reverses à chaque fois le verre dans la théière ?
Pour avoir la mousse et pour mélanger le sucre. Quand il y a le vent, la mousse, ça filtre le sable. Alors c'est important, la mousse, dans le verre et dans le thé. Le thé, c'est important pour les nomades.
Pourquoi ?
Parce que ça casse la fête. Et c'est important dans la discussion entre la famille, comme ça. On boit un verre, on discute.
Le thé qu'on buvait à longueur de journée, hein, très très sucré. L'après-midi, quand le soleil tape très fort, le camp est très calme. Chacun se réfugie sous l'une des tentes ou des petites maisonnettes en terre. Hein, ces îlots de fraîcheur sous lesquels on s'abritait pour pas mourir desséché, tout simplement, parce que le soleil tapait vraiment fort. C'est le moment de la sieste, des lectures, ou parfois d'un petit concert improvisé, puisqu'il y a des instruments de musique un peu partout. Et les enfants du village venaient s'en emparer et se mettaient à chanter. Et là, tout le monde rappliquait au fur et à mesure. Alors ça vous rappelle des choses, hein, je suppose, tous les deux. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, le souvenir qui vous a le plus marqué en arrivant au Sahara ?
Je crois que c'était avant tout humain, en fait, les rencontres qu'on a fait notamment avec Rachid et Aziz. Et là, de les entendre, c'est vrai que ça m'a beaucoup touchée. En fait, ce qui s'est passé dans le Sahara, ce qui était marquant pour moi, c'est qu'on avait vraiment des liens humains très forts avec des personnes qu'on connaissait à peine et que c'était vraiment quelque chose de sincère et d'authentique et ça fait du bien. Africa ma se boye ye
بلادك يا الصحراء بلاد النخله والتمره بلادك يا الصحراء بلاد النخله حلا وتمرة جيب الورمنا وانتي واحد خضرة جيب الورمنا وانتي واحد خضرة ماما 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 أفريكا ماما 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 أفريكا لا 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 لا
Casina dans VMDN sur RFI avec Anna Labouze et Kémy Séni, commissaire de l'exposition Hôtel Sahara au magasin Généraux à Pantin près de Paris jusqu'au 2 octobre dans le cadre de la saison Africa 2020 et en entrant dans le grand hall d'exposition qui accueille les 11 œuvres, hein, celles que l'on découvre en premier, c'est celle de la chorégraphe égyptienne Anine Tarek. Le visiteur est invité à s'asseoir sur une chaise devant un écran qui diffuse une vidéo, Amélie.
Oui, on s'installe en quelque sorte à un poste de surveillance. Sur l'écran, on voit, ou on observe plutôt, Anine qui danse à la fois dans le désert et en ville. Et on a un point de vue un peu particulier puisqu'on l'observe de haut, un peu comme si on était dans l'œil d'une caméra et qu'elle ne savait pas qu'elle était observée. Et c'est justement tout son propos. Écoutez.
L'installation parle de la relation entre le corps et la sécurité. Visuellement, l'idée m'est venue alors que j'avais envie de prendre des photos dans le désert tout en étant observée par des caméras de surveillance. Je voulais aussi jouer sur le contraste entre la ville et le désert parce que je viens d'un pays recouvert en partie par ce désert, mais j'ai grandi en ville, au Caire. Et j'ai beaucoup discuté avec Maya sur ces questions de surveillance dans le Sahara. À première vue, quand on vient de la ville, on se dit que c'est spacieux, confortable, qu'on s'y sent libre. Mais en réalité, c'est un endroit surveillé avec ses propres dynamiques. Ce n'est pas un espace vide.
Alors derrière son travail, il y a aussi la volonté de parler de la difficulté des déplacements intersahariens. De quelle difficulté on parle exactement et pourquoi ça pose souci ?
On parle notamment des difficultés de déplacement des populations locales, sahariennes, qui notamment en raison de la construction d'États-nations et de frontières, ne peuvent plus se déplacer du nord au sud ou d'est en ouest comme elles le faisaient auparavant.
Et cette difficulté de déplacement, là, elle est illustrée, par exemple, hein, et c'est un exemple parmi tant d'autres, parce qu'il s'est passé avec le designer et couturier égyptien Ahmed Serour. Il n'a pas pu participer à la résidence.
Il n'a pas pu obtenir son visa pour venir au Maroc, et il n'a pas pu obtenir son visa non plus pour venir à l'exposition en France, parce qu'il n'avait pas fait son service militaire.
Ah d'accord, effectivement, petite précision importante. Et alors il présente une œuvre, hein, quand même dans cette exposition. On la découvre sous une vitrine. Alors on dirait des fossiles. Ce sont en fait des impressions 3D. Hein. Il y a une bouteille plastique, il y a un décapsuleur, il y a des clés de voiture, il y a des lunettes de soleil, il y a des outils agricoles. Qu'est-ce qu'il a voulu interroger, Kémy Séni, à travers ces objets ?
Alors déjà le premier élément, c'est que Ahmed a été extrêmement malin. Puisqu'il n'a pas pu venir et il a symbolisé son empêchement de venir à la fois à la résidence et à l'exposition à Pantin en nous envoyant des fichiers et du coup en nous confiant la production de ses œuvres puisque les fichiers ont été réalisés chez lui au Caire, mais les œuvres ont été réalisées à Pantin dans des Fab Labs de la ville de Pantin. Il a voulu interroger l'impossibilité, ou du moins la grande difficulté d'interroger des histoires précoloniales, puisqu'il s'intéresse à l'oasis de Siwa, qui se situe en Égypte, et dans lequel, à l'aube des années 20, des agriculteurs auraient eu des pratiques homosexuelles. Donc c'est un fait historique, mais sur lequel il est très difficile d'avoir de la documentation, de recueillir des savoirs. Et l'artiste a voulu montrer des faux objets archéologiques, des fausses traces finalement de cette histoire passée, mais complètement trafiquées d'éléments anachroniques, puisque les éléments qu'on retrouve dans ces objets sont des éléments plutôt contemporains, qui sont plutôt des éléments liés au contexte actuel de l'oasis de Siwa, où des touristes viennent en quête d'un paradis orientaliste gay. D'où les clés de voiture, les lunettes, les clés de voiture qui sont des clés d'un 4x4, des objets certes qui renvoient à un passé d'agriculture, mais qui pourraient être aussi des objets sexuels. Du coup, ça montre finalement l'impossibilité d'accéder à une histoire réelle à cause de tous les fantasmes et de tous les imaginaires qui ont été créés depuis et de l'absence de documentation par rapport à cette réalité.
Voilà comment ces objets et ces œuvres peuvent raconter une histoire, en l'occurrence donc à travers cette œuvre d'Ahmed Serour. Autre absente de la résidence d'Hôtel Sahara, la plasticienne libyenne Tewar Barnoza. Alors, ce qui n'a pas empêché de s'interroger sur le nom même de cette exposition, Anna Labouze. Il y a une LED, un panneau lumineux, avec cette inscription qui résonne un peu comme une sorte de profession de foi. Hein. Le Sahara n'est pas un hôtel.
Tout à fait. Alors, Tewar Barnoza, juste pour la situer un petit peu, c'est une artiste libyenne qui vit à Tripoli, mais qui est une artiste amazigh, originaire du Djebel Nefoussa en Libye. Donc, il y a quand même un lien affectif au moins avec le Sahara. Et elle a vraiment vécu cet empêchement de pouvoir se rendre dans les montagnes, de pouvoir s'enfoncer en raison du contexte passé et présent libyen. Et donc pour elle, le Sahara est tout sauf un hôtel parce qu'elle ne peut pas s'y rendre.
This will destabilize the country. This is a sort of coup against the political process and against the democratic path chosen by the Libyan people. It is also against the political agreement sponsored by the UN, the international community and the Security Council.
Voilà, et ça, Anna Labouze, on peut l'entendre dans les enceintes hein, qui entourent le panneau lumineux dont on vient de parler. Une musique, des mots qui se veulent un peu le reflet des différentes réalités sahariennes.
Tout à fait, surtout au sud libyen. En fait, l'artiste Tewar Barnoza a collecté des enregistrements sonores, des témoignages. Elle a écrit elle-même des textes. Elle a aussi collecté des passages dans des médias de tout ce qui se passe dans le sud libyen, des souffrances générées qui sont souvent absentes des grands médias internationaux.
Voilà, donc il faut effectivement à le visiteur de se placer au centre de l'œuvre et il entend effectivement tout ça avec les enceintes qui sont disposées en corolle hein, autour de cette LED. Et en poursuivant sur la gauche, quand le visiteur continue de visiter et de passer en revue les différentes œuvres de cette exposition Hôtel Sahara, Amélie, on tombe sur trois toiles absolument gigantesques.
Oui, 3 mètres sur 2 mètres, elles font, si mes souvenirs sont bons, signé Famakan Magassa, lui c'est le peintre de la bande, il vient du Mali. Des toiles sur lesquelles on voit des personnages désarticulés avec de longs coups, des bras et des jambes qui partent dans tous les sens. Et ça, c'est une scène de danse qu'il nous a expliquée.
Dans cette exposition, moi, j'ai travaillé sur la takamba, qui est une danse traditionnelle du Mali depuis le 15e siècle. Donc, c'est une danse qui a eu son apparition dans le village Temera, qui fait partie d'une région du Mali, dans le nord. Donc, le mot takamba, ça veut dire prendre la main, parce que dans l'histoire que j'ai lue, c'était un monsieur Touareg avec ses amis qui passaient dans un village. Le village s'appelle Temera. Et ils ont rencontré une belle fille. Et ce monsieur, il voulait tendre la main à la jeune fille pour la saluer, parce qu'il trouvait qu'elle était très belle. Et du coup, son ami a dit à la dame, Takamba. Ça veut dire prendre la main, tendre la main à ce monsieur. Donc c'est l'origine du mot Takamba. On retrouve les mêmes cultures, les mêmes ethnies. Les Touaregs, les Sorains, on retrouve au Mali, au Niger et en Algérie. Donc du coup, c'est facile l'exportation de cette danse. Takamba Deyemine, Orom Soudou. Takamba Deyemine.
Igonda takamba gono Muramda bamba gameura Koira fogono imanase takamba Aywa doji kana takamba gano
dans ces trois toiles, on retrouve aussi des signes caractéristiques du travail de Famacan. Il aime bien les personnages excentriques avec de grosses bouches rouges. Et il y a souvent des détails inattendus dans ces tableaux. Ici, par exemple, on a un téléphone portable et une perche à selfie. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'il a inséré ces objets ?
Oui, tout à fait. C'est lié au contexte de découverte de l'Atacamba par Famacan, puisqu'il n'a pas pu accéder à cette danse en se rendant dans le nord du Mali. On parle beaucoup de toute façon dans l'exposition de manière générale des mouvements empêchés, et il a dû se documenter autrement, c'est-à-dire soit en discutant de cette danse avec des personnes qui la pratiquent originaires du nord du Mali mais présentes à Bamako, soit en la découvrant sur YouTube. Sur internet, et c'est ainsi qu'ils se sont rendus compte que cette danse, qui a cette réputation de danse traditionnelle, que finalement cette danse était vraiment dans son temps, et elle était véhiculée par des films réalisés avec des téléphones portables, des enregistrements sonores, et du coup il a souhaité intégrer ces éléments dans sa peinture pour casser un petit peu ce cliché, ce préjugé qu'on peut avoir d'une danse traditionnelle qui serait figée et qui ne serait pas au cœur de notre époque.
Et vous avez souligné lors de la visite de l'exposition que Famacan, c'était aussi un artiste qui était très engagé auprès de la jeunesse dans son pays. Est-ce que vous pourriez nous en dire un mot ?
Tout à fait. Alors Famacan, c'est un très jeune artiste. Il est né en 1997. Il vit à Bamako et à Bamako, il a créé un atelier collectif pour porter et accueillir les jeunes artistes peintres qui vivent à Bamako.
Il est aussi très jeune, vous le disiez, mais aussi reconnu à l'international.
Ben ça commence. Ça fait plusieurs mois qu'il était à Paris dans le cadre de résidence. Il a trouvé une galerie à New York. Donc il s'apprête à devenir un artiste international.
VMDN sur RFI avec Anna Labouze et Kémy Seni, commissaire de l'exposition Hôtel Sahara au Magasin Généraux à Pantin, près de Paris, jusqu'au 2 octobre. Et la musique que l'on vient d'entendre, elle est issue d'une vidéo réalisée par la Soudanaise Iba El-Zigouli, Kémy Seni. La danse hein, qui est mise en scène, si j'ose dire, à travers cette vidéo, la danse comme vecteur de rapprochement culturel. C'est très symbolique ce que l'on voit, mais c'est aussi très fort humainement parlant.
Oui, c'est une œuvre qui résonne particulièrement dans l'exposition, puisqu'on a ce son qu'on vient d'entendre, cette chanson qui est assez entêtante, c'est un petit peu la BO de l'exposition, en tout cas on s'en souvient beaucoup en ressortant. Et l'artiste a réalisé un projet très engagé, Iba El-Zigouli, donc une chanteuse soudanaise. Elle a travaillé avec 9 femmes lors d'un atelier qu'elle a organisé. 9 femmes qui viennent des quatre coins du Soudan. Et elle les a invitées à travailler sur les compositions féminines des Algésirates du nord du Darfour. Donc des compositions de femmes, musicales, de danse aussi, où tout s'articule autour de claps avec les mains. Et elle les a amenées à interroger cette pratique, du coup, à travers cette vidéo. Donc le chant a été réalisé par ces femmes. 5 de ces femmes sont dans la vidéo, et donc avec une chorégraphie qui a été créée par elle. Donc c'est vraiment une œuvre de collaboration entre ces différentes femmes. Et au-delà de l'œuvre, cet atelier a permis à ces femmes de s'interroger aussi sur la transmission et les héritages culturels au Soudan, et sur comment finalement les femmes portent la culture au sein du pays. Donc c'est une œuvre extrêmement forte et extrêmement structurante dans le cadre de l'exposition et de ce projet.
Oui, on voit effectivement les femmes danser avec des mouvements de zoom et de dézoom qui est aussi très fort artistiquement parlant. Ça porte un message, Anna Labouze.
Tout à fait. En fait, ça signifie un petit peu la distance qu'avaient ces femmes au départ avec avec cette culture et puis le rapprochement. Et en fait, ça fait aussi référence un petit peu au titre de l'exposition, Hôtel Sahara, parce que ce qu'on a voulu dire en parlant d'hôtel, c'est aussi signifier notre position qui est un peu un pas de côté et qui vient de l'extérieur et qui donc amène une certaine distance de départ, en tout cas, avec le sujet du Sahara.
La vidéo est très présente hein, dans cette exposition. Autre travail, par exemple, et là, on est tout au fond du hall. Amélie, le travail de Sarah Sadik.
Oui, Sarah Sadik, c'est une jeune artiste qui vit à Marseille. Et elle expose deux panneaux vidéo posés à la verticale en portrait, hein, comme si on regardait l'écran d'un smartphone géant. Et elle a choisi de nous faire découvrir le Sahara tel que les jeunes de son âge en France le perçoivent.
C'est une vidéo que j'ai réalisée à partir de found footage. En grande majorité des vidéos que j'ai récupérées de trois jeunes hommes qui sont partis en vacances au Maroc ces dernières années. Et il y a aussi quelques vidéos que moi j'ai prises pendant la résidence. Et du coup, c'est une vidéo qui présente, en fait, enfin, qui documente le séjour de deux groupes d'amis dans une ville imaginaire pas loin du désert qui s'appelle Club Mala. Et donc, en fait, à partir de leur vraie vidéo qu'ils avaient vraiment postée sur Snapchat, j'ai réécrit une nouvelle histoire. Ce qui m'intéressait, moi, c'était la perception du désert du point de vue de Français, en fait, de jeunes Français d'origine marocaine, du coup. Je voulais présenter leur vision à eux, montrer leur perception à eux, la manière dont ils le représentent, dont ils le montrent, dans ce phénomène qui est de partir avec leur groupe d'amis en vacances, faire la mala, donc c'est-à-dire... Faire la mala, ça veut dire dépenser son argent, se montrer, voilà, vivre de tous ses excès dans l'insouciance la plus totale. C'est important pour moi de montrer leur réalité et leur point de vue par rapport à ça. Et c'est un point de vue, voilà, que tous les touristes ont et que du coup, peut-être en les voyant faire, on se reconnaît dans la manière dont nous on vit dans un pays quand on part en vacances, loin de l'histoire, loin de... Voilà, comme si on était dans une autre dimension, dans notre bulle, quoi.
Et ce qu'elle questionne aussi dans son travail, hein, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure, Camille, c'est aussi une certaine quête d'identité, en fait.
Oui, 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 bien sûr. C'est-à-dire que c'est aussi très lié à l'histoire de Sarah Sadik dans le cadre de ce projet, puisqu'elle a... elle avait également, elle est d'origine marocaine, donc elle avait ce lien aussi avec juste la terre du Maroc, en s'y rendant et en s'enfonçant comme ça dans le pays. Et c'est la raison pour laquelle elle a également intégré certaines des images qu'elle a prises dans la résidence dans cette fiction. Donc elle est venue un peu hacker sa fiction avec certaines de ces images qui sont celles de la résidence, ce qui est très beau puisqu'elle lit l'histoire de ces jeunes d'origine marocaine qui se rendent au Maroc pour faire la mala avec sa propre histoire et elle interroge aussi les démonstrations un peu de fierté identitaire sur les réseaux sociaux et les représentations qui peuvent être véhiculées et qui parfois inscrivent aussi le désert, le Sahara comme un décorum et qui participent aussi à la construction d'images qui peuvent être exotiques. Donc c'est une œuvre qui est extrêmement intéressante, extrêmement forte. De toute façon, on n'est pas très objectif sur Sarah Sadik. On considère vraiment que c'est une des artistes les plus brillantes de sa génération. On aime beaucoup son travail, qui est extrêmement nécessaire. Et elle a eu l'intelligence, finalement, d'interroger sa propre histoire. Donc c'est vraiment une œuvre très personnelle, avec celle de jeunes et de leur groupe d'amis, donc créant un peu cette communauté affective au-delà de la résidence aussi. Donc elle a continué, comme Ibaël Jezouli, à créer des collaborations avec d'autres personnes, mais dans cette même logique collective.
Et puis cette entrée touristique aussi sur le désert, elle dit quelque chose sur la résidence, puisque vous l'avez dit tout à l'heure, la destination a été choisie un peu par défaut parce que c'était une zone verte. Et donc Mahamid, c'est une région un village très touristique. Est-ce que, en parlant avec les artistes, vous avez senti que ça avait pu être un frein, peut-être, à leur découverte du désert ? Le côté touristique de
la ville. Bien sûr que ça a été un frein, parce que du coup, on ne s'est pas rendu au cœur du Sahara. Il aurait fallu qu'on parte, qu'on s'enfonce beaucoup plus et qu'on parte beaucoup plus longtemps aussi. Mais je pense que c'est justement ce frein, encore une fois, cet accès empêché qui est au cœur du projet, au cœur des discours portés par les artistes de l'exposition.
Alors cette musique, Anna Labousse, c'est Scarabs. C'est une musique signée Alex Ayed, le plasticien franco-tunisien, qui nous présente la seule œuvre qu'on ne peut pas voir, si je veux dire, dans l'exposition. C'est la seule œuvre immatérielle. C'est un mini-album de musique, hein, de 5 titres, un EP, comme on dit aujourd'hui. 5 titres musicaux directement issus de cette résidence Hôtel Sahara.
En partie. Alors Alex, pendant la résidence, Alex Ayed enregistrait tout. Tout ce qui se passait, les discussions, les moments de musique, et il a eu à cœur de réaliser un projet pour l'exposition qui témoigne de ce moment de résidence. Et donc il a utilisé dans son EP beaucoup des sons enregistrés pendant la résidence, mais il a aussi voulu collaborer avec les autres artistes avec lesquels il est devenu ami, et c'est comme ça que sont intervenus dans son EP des artistes comme Anine Tarek, Ibal Ghizouli, Salem Bayri, Tayeb Bayri.
Voilà, et donc il s'agit pour le visiteur de flasher le QR code qui est sur le cartel que l'on retrouve au mur. Comme ça, on peut emporter aussi la musique chez soi. Il n'y a pas tant qu'à faire. On ne se gêne pas. Autre œuvre qui montre la dimension à la fois collective et affective de ce projet, Camille Seni, il y a les photos d'Ismaïl Zaïdi.
Oui, Ismaïl qui a fait toute son œuvre en fait au cours de la résidence. Alors autant autant les autres artistes ont travaillé vraiment d'arrache-pied à l'issue de la résidence, en se documentant pendant un an et en ayant ces conversations aussi avec Maya Awad, la commissaire scientifique. Ismaïl a tout fait sur place. Il s'est intéressé à deux sujets. Le premier, c'est le lien justement avec les autres artistes. Il a créé des très belles photographies qu'on a tirées sur Caisson Lumineux, qui met en scène Salim Bayri, Anine Tarek, également Ibal Ghizouli, dans des scènes très 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 bienveillantes, dans les dunes à Mamid El Ghislan, avec toujours la présence du tissu qui symbolise dans le travail d'Ismaïl le lien affectif. Puisqu'il a l'habitude normalement de créer ses photographies uniquement avec son frère, sa sœur et sa mère. Donc c'était la première fois qu'il mettait d'autres modèles dans ses photos et qu'il mettait du coup des amis. C'était très fort pour lui de faire ce geste. C'est un tout jeune photographe, hein. Il est également très jeune, il est né en 1997. Et il a fait une deuxième série, cette fois-ci plus engagé dans le sujet de l'exposition et dans cette idée de relation empêchée, avec des photographies de dunes qui sont prises au téléphone portable. Il faut savoir que Ismaïl Zaïdi travaille uniquement avec des smartphones, donc il a toujours son matériel avec lui dans sa poche. Et il a photographié des photos de dunes, telles qu'on peut en voir par milliers sur les réseaux sociaux, sur Instagram, quand on fait hashtag Sahara, ou comme on peut trouver sur Google Images quand on tape Sahara. Et il les a tirées sur des voiles, des grands voiles de 3 mètres de haut par 2 mètres de large.
Des voiles qui tombent du plafond comme ça et qui sautent un petit peu au vent.
Exactement, voilà, on a un peu des courants d'air en magasins généraux, oui. Donc ça accentue cet effet un peu fantomatique. Et pourquoi des voiles ? Parce que finalement, il voulait insister sur le fait que le sable et les dunes étaient une illusion, puisqu'il faut savoir que le sable ne représente qu'un quart de la surface du Sahara. Ce n'est également pas là où les gens vivent en majorité, puisque c'est pas le terrain le plus favorable. Et du coup, toutes ces photographies de sable, de dunes, cachent finalement la réalité et la diversité du Sahara et des lieux de vie de ses habitants. Et c'est ça qu'il a voulu nous dire, c'est que toutes ces images sur les réseaux sociaux, sur Internet, sont assez illusoires sur les réalités du Sahara.
À présent, mesdames, messieurs, tendez l'oreille. Ce n'est pas le fantôme des magasins généraux. Je ne sais pas si vous avez reconnu Anna Labousse, Camille Seni.
Oui, bien sûr. C'est l'œuvre de Salim Bayri.
Absolument.
L'œuvre de Salim Bayri, c'est un autre son très marquant de l'exposition.
Bah oui.
Effectivement.
Donc c'est une baguette, en fait, qu'il a construite lui-même. Une baguette qui cogne contre le mur d'un bâtiment, et pas n'importe quel bâtiment.
C'est ça, Salim Bayri s'est rendu à Aix-en-Provence, sur le bâtiment des archives d'outre-mer, qui contient toutes les archives produites depuis la France sur le Sahara.
Voilà, Aix-en-Provence, c'est dans le sud de la France.
Tout à fait.
Il s'y est rendu illégalement.
Il s'est rendu illégalement, exactement. Salim Bahri travaille beaucoup sur les archives. Et là, ce qui l'a intéressé, en fait, c'est l'asymétrie qui existe entre les archives et les savoirs produits sur le Sahara depuis l'Europe et les archives sahariennes auxquelles on n'a pas forcément accès. Et donc, il a voulu un petit peu exorciser tout ce savoir auquel on n'a pas accès, parce qu'il faut savoir que ce bâtiment des archives d'outre-mer n'est pas accessible à moins d'être un chercheur, par exemple. Et donc, il s'y est rendu en mai dernier, pendant une pause déjeuner. Il a profité de l'interstice pour pouvoir aller taper contre le bâtiment, pour le transformer en caisse de résonance.
Voilà, donc, il y a un vrai message politique, d'ailleurs, cela, Kémy Séni. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le bruit, si je veux dire, que l'on a du Sahara provient justement de cette histoire coloniale?
Exactement. L'un des gestes forts et marquants de l'exposition, c'est déjà sur le fait qu'il y soit allé illégalement. Je veux pas que Salim ait d'ennui. La porte était grande ouverte. Hein, il n'a pas escaladé, il n'est pas rentré par effraction. Juste profité d'une ouverture pour pouvoir taper sur ce bâtiment, ce qui est un rêve, je crois, de beaucoup de chercheurs sur les questions postcoloniales, que de un jour taper sur ce bâtiment. Donc il a un peu accompli le fantasme de beaucoup de gens. Et effectivement, ces archives, qui sont des archives administratives, militaires, ont tendance à empêcher l'accès au véritable savoir, et notamment à cantonner parfois les expertises et les études sur le Sahara à ses sources écrites, donc et loin de la réalité du terrain. Et du coup, voilà, Salim a voulu confronter ce bâtiment, son absurdité, aussi par rapport à l'histoire qu'on porte dans le cadre de ce projet. Il a eu une remarque très intéressante quand on parlait de sa vidéo. Au début, il voulait retravailler le son pour justement qu'il y ait cette idée de caisse de résonance, que ce bâtiment soit transformé en instrument. Et finalement, il l'a laissé tel quel. Et on a entendu, ce son est très plat. Et justement, ça l'intéressait de se dire, c'est marrant, hein, ce bâtiment des archives, quand on tape dessus, ça fait un son moche, plat, un peu grinçant. Et ça veut tout dire, et c'est ça la force, hein, de l'art, c'est de pouvoir dire en un geste, en un son, énormément de choses.
Et Salim Bahri a un frère, hein, qui est également vidéaste et musicien, qui s'appelle Tayeb Bahri. On découvre dans l'exposition une vidéo. Alors cette fois, il y a trois écrans, hein, deux verticaux, un peu comme des smartphones, qui encadrent un écran géant horizontal et qui nous raconte, là aussi, Anna Labouze, une histoire de mémoire.
Exactement. Alors, Tayeb Bahri a modélisé en 3D une vidéo où l'histoire, ces deux personnages qui se réveillent depuis longtemps, mais ils ne savent pas très bien quand, et qui se demandent ce qu'ils font là. Ils sont dans un désert, mais ils ne savent pas s'ils l'ont traversé, s'ils en viennent, s'ils y vont. Ils sont un petit peu perdus. C'est assez flottant, sa vidéo, et ça questionne justement toute cette question du souvenir, de est-ce qu'on peut savoir, comment est-ce qu'on peut avoir accès au savoir.
Et ça fait écho justement à sa propre expérience, je crois, parce que j'ai retrouvé un morceau d'interview que j'avais faite à ma amie en février dernier, et il racontait justement à mon micro quelques impressions qu'il avait du désert.
On était en train de réfléchir à notre situation ici. Ça veut dire qu'on est tous de coins un peu différents, et on atterrit dans l'orée du désert auquel on est censé appartenir, alors qu'en fait, chacun de nous a un rapport très distant et fantasmagorique de ce que c'est que ce désert. Enfin, c'est un peu entre la carte postale et le souvenir et les images et les films. Et chacun parle en fait de ce désert-là, mais jamais pas le désert physique, pas l'endroit où on se retrouve nous maintenant. Et du coup, pour nous, c'est un peu être téléporté ici, dans un contexte qui est assez particulier, qui est cette histoire d'Africa 2020, avec les magasins généraux, donc et un truc privé qui s'associe à un truc institutionnel qui nous téléporte ici au Maroc. Enfin, c'est vraiment un peu surréel. En y réfléchissant, on s'est dit, en fait, là par exemple, ce camp-là, c'est une sorte de petite capsule qui à la fois se trouve dans un endroit qui est plus ou moins hostile, mais on est dans des conditions hyper confortables, et donc ça nous protège, enfin tout nous protège d'un peu de cet environnement de ce désert qui est censé truc. C'est un peu l'histoire de la capsule, d'être quelque chose qui nous préserve de l'extérieur. Et du coup, on s'est dit, on pourrait recréer une capsule aussi dans les magasins généraux, comme ici on est dans une capsule.
Et cette capsule, Kémy Séni, elle trône au milieu du hall de l'exposition. C'est un peu le bilan collectif du travail de ces 10 artistes. Vous pouvez nous la décrire, cette capsule?
Alors oui, effectivement, c'est le centre névralgique, c'est le point de gravité de l'exposition. Cette capsule, on a fait en sorte qu'elle soit pile poil au centre, c'est-à-dire qu'on a vraiment tracé un trait entre chaque œuvre et on l'a mis au croisement de ces traits. Il s'agit d'une carapace de Pimelia. Donc c'est une espèce de scarabée qui a été considérablement agrandie, dans laquelle on peut rentrer. Donc pour vous donner une idée, il y a à peu près 25 mètres carrés d'espace à l'intérieur. Pourquoi le Pimelia? Parce que le Pimelia, il a la particularité de se retrouver dans tous les coins du Sahara, du nord au sud, d'est en ouest. Donc ça symbolise un petit peu ce mouvement possible, imaginaire, en tout cas aujourd'hui malheureusement, d'un Sahara qui serait dénué de frontières, qui serait dénué de lois humaines et dans lequel les personnes pourraient naviguer sans obstacle. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'idée même de capsule, puisque les artistes parlent de capsules spatio-temporelles. En tout cas, c'est beaucoup revenu dans leur discours par rapport à cette œuvre collective. Il y a l'idée de cet endroit justement un peu clos dans lequel on se retrouve. Ça faisait beaucoup écho au moment de soirée. On en parlait tout à l'heure, les artistes la journée partaient un peu chacun dans leur direction à leurs différentes occupations, et le soir tout le monde se retrouvait à un seul endroit, en un seul centre. Ce scarabée géant n'est pas laissé seul. Il est accompagné d'un dispositif lumineux. C'est la deuxième partie de cette œuvre collective qui est répartie sur l'ensemble du plafond des magasins généraux. Donc ça inscrit finalement toute l'exposition, toutes les œuvres, les visiteurs dans un paysage géant, dans un diorama. Ces projecteurs de lumière miment en 24 minutes, 24 heures de la lumière du Sahara telle qu'on l'a vécu à Mahmoud El Ghislan. Et ça figure le mouvement justement de ce Pimelia dans le Sahara, ce mouvement un peu perpétuel qui ne s'arrête jamais. Et à l'intérieur, ce qu'il y a à l'intérieur, et il est très important, à l'intérieur, les artistes ont mis un son qui n'est pas n'importe lequel.
Et Amélie, d'ailleurs, vous êtes entrée évidemment à l'intérieur de la capsule, votre
micro
à la main,
ouais,
pour vous imprégner de ce son qui se dégage.
C'est vrai que c'est assez étrange d'entrer là-dedans, déjà parce que bon, cette idée, on l'a entendue de capsule, les artistes l'avaient eue dès le départ, vous vous en souvenez tous les deux. Et on va reparler du bruit blanc dans un instant, mais avant ça, Anna et Kémis, vous, cette idée de capsule, vous avez suivi son évolution à partir de la fin de la résidence jusqu'à son installation. Comment est-ce que ça a évolué?
Ah bah alors déjà, ça a été un grand défi pour nous à tous les niveaux. L'idée même de réaliser une capsule pour l'exposition, je crois qu'elle a jamais vraiment quitté les artistes, parce qu'ils, dès le retour, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait souvent des réunions Zoom, hein, ce qui était à la mode, mais qui fonctionnait plutôt bien pour le projet. L'idée de la capsule a été présente. Donc ensuite, il y a des artistes, et notamment Tayeb Bayri et Alex Ayed, qui avait récolté une vraie carapace de Pimelia au moment de la résidence, et donc ils l'ont modélisée en 3D. Et ensuite, ils nous ont dit, maintenant, s'il vous plaît, on aimerait la même, mais en géante. Et donc, ça a été notre travail pendant des mois de trouver un moyen d'agrandir cette carapace, et vous l'avez vu.
Et ce bruit blanc, alors que l'on entend, qu'est-ce qu'il représente pour les artistes?
Alors, il représente plusieurs choses, c'est-à-dire que le premier élément, c'est qu'ils avaient cette idée d'avoir un petit peu cet espace qui est au milieu de l'exposition, posé comme un vaisseau qui se serait posé là. Donc il y a évidemment un jeu aussi avec les imaginaires du Sahara qu'on peut retrouver, et du désert qu'on peut retrouver dans la science-fiction. Ça, les artistes en ont beaucoup parlé, hein. Ils nous ont parlé de Dune, ils nous ont parlé des figures comme Tatooine dans Star Wars. Donc la présence du désert, ça participe beaucoup aussi aux projections exotiques. Donc ils avaient envie d'incarner ça avec cette idée d'un peu de vaisseau spatial. Et ce bruit, on a comme un bruit qu'on pourrait entendre, le bruit d'un moteur de vaisseau, le bruit d'un moteur d'avion. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est un bruit qui symbolise la distance initiale des artistes vis-à-vis du sujet de l'exposition et la distance qu'ils ont par rapport à l'objet Sahara et comment ils ont tenté de l'habiter, de le comprendre, puisqu'on a ce bruit qui est très distancé, puisqu'il a une particularité, c'est que comme il est créé en additionnant toutes les fréquences audibles par l'être humain, puisqu'il s'agit d'un bruit blanc, il occulte les sons aux alentours. Donc d'un coup, il crée une distance. C'est-à-dire que quand on rentre dedans, on n'entend plus du tout le reste de l'exposition. On n'entend que cela. Et le dernier symbole, qui est évidemment le plus fort et le plus important, c'est qu'il symbolise toutes les voix sahariennes qui sont passées sous silence. Et du coup, c'était une manière pour les artistes de convoquer, mais à leur niveau, les voix sahariennes au sein de l'exposition.
Et c'est aussi une manière pour le public de plonger hein, à son tour dans ce Sahara à la fois si proche et si lointain une fois que la visite touche à sa fin. On pourra d'ailleurs s'y plonger à travers le festival qui accompagne l'exposition. Vous pouvez nous donner quelques-uns des grands rendez-vous peut-être, Anna Labousse ?
Alors le festival Hôtel Sahara, c'est l'occasion pour nous de véritablement convier des voix sahariennes, parce qu'on ne peut pas faire une exposition sur le Sahara sans sahariens et sahariennes. Et donc on donne rendez-vous tous les vendredis du mois de septembre au Magasin Généraux avec des artistes, des penseurs, des chercheurs, des personnes qui sont intimement liées à l'espace saharien et qu'on va approfondir les portes ouvertes esquissées par les artistes dans le cadre de l'exposition. Donc il va y avoir des projections de films, des performances, des lectures de poésie, des concerts.
Donc chaque vendredi.
Chaque vendredi du mois de septembre.
Rendez-vous est pris. Merci beaucoup à tous les deux, Anna Labousse et Kémy Séni. L'exposition Hôtel Sahara, c'est donc au Magasin Généraux à Pantin, dans la banlieue de Paris, le long du canal de Lourdes, très bel endroit, jusqu'au 2 octobre, dans le cadre de la saison Africa 2020. Et merci à vous également, Amélie Beaucourt.
Sastanakam, Lektifu Timidiwan, let us in it led a shakwa, Inayan Warani Sinjay, Tisana Tabar, Sukos Tarander Shinawan, Tiniri Sastanakam, Lektifu Timidiwan, let us in it led a shakwa, Inayan Warani Sinjay, Tisana Tabar, Sukos Tarander Shinawan.
Sastana Kam et la musique de Tineri Wen pour se quitter. Dans une poignée de secondes, le journal sur RFI. On se retrouve demain, bien sûr, avec la romancière Laetitia Colombani qui nous emmène en Inde. Son nouveau roman, Le Cerf-Volant, vient de sortir aux éditions Grasset et vous m'en direz des nouvelles.
Pendant plus de trois semaines.